Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, les 265 migrants à bord de l'Open Arms toucheront terre en Sicile. Les mineurs ont déjà débarqué. Pour les 215 majeurs, il faudra patienter encore 2 semaines en mer, dans des conditions très précaires, à bord d'un navire quarantaine. C'est la règle qui prévaut depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Les personnes sauvées en mer sont ensuite transférées sur d'énormes navires pour y être mises en isolement sanitaire. Un système que dénoncent 150 associations italiennes et internationales. Les détails avec Cécile Debarge.
Au large des côtes siciliennes, 5 navires se sont relayés ces derniers mois. Au total, plus de 10 000 migrants y ont effectué une quarantaine après leur sauvetage en mer dans des conditions loin d'être optimales selon 150 associations italiennes et internationales. Difficulté pour isoler correctement les personnes positives, pas de possibilité de prise en charge médicale immédiate alors que la plupart en auraient besoin. Nouveau traumatisme, détresse psychologique. Dans un document adressé au gouvernement, les associations demandent la fin de ce système et une prise en charge à terre, comme cela se fait pour d'autres catégories de la population. Parmi les signataires, le CIS, une association de coopération internationale palermitaine dont Sergio Cipolla est le président.
L'isolement sur les bateaux expose les migrants à des risques sanitaires, à des conditions d'isolement psychologique très graves et à un manque de couverture des besoins de base. C'est quelque chose qui ne peut se produire que dans des contextes d'extrême urgence. Et nous retenons que ce n'est pas le cas en ce qui concerne les migrants.
Le 7 octobre, la mort d'un migrant ivoirien de 15 ans, hospitalisé en urgence dans un hôpital de Palerme pour dénutrition après plusieurs jours passés sur un navire de quarantaine, a relancé la polémique sur la prise en charge médicale à bord. Pourtant, sur chaque navire, la Croix-Rouge a dépêché infirmiers, médecins et médiateurs culturels. Au mois de mai, c'est un jeune Tunisien de 22 ans qui est mort après s'être jeté à l'eau. Un geste de désespoir qui n'est pas rare et dont a été témoin Paola Taliaboué, membre de l'équipe Medical Emergency, qui a opéré à bord de l'Open Arms pour une mission de 52 jours qui s'est achevée le 3 octobre dernier. 276 migrants venaient alors d'être sauvés et devaient effectuer une quarantaine en mer.
Quand on leur a expliqué que cette attente aurait lieu sur un bateau, ça a été très difficile. Dès qu'on nous a notifié le port où nous rendre et que l'on s'est approché de Palerme, dans les 24 heures qui ont suivi, pendant qu'on attendait le transfert sur le navire en quarantaine, une 60aine de personnes se sont jetées à l'eau devant le port pour essayer de rejoindre le rivage. Parce que c'est difficile pour eux d'imaginer voir la terre ferme et de devoir être transférés sur un autre bateau.
Au-delà des conditions d'accueil précaires, les associations dénoncent également le coût disproportionné du dispositif qui pourrait être bien moindre si la quarantaine s'effectuait dans des lieux adéquats sur la terre ferme, comme l'a calculé Fausto Meluso, président de l'Archiporco Rosso de Palerme. Il s'est basé sur l'appel d'offres auquel a répondu la compagnie de ferry GNV qui a mis à disposition les navires de quarantaine.
Accueillir les migrants de la sorte coûte plus de 3 600 000 euros, jusqu'à 4 millions avec les frais annexes. Alors qu'un accueil de base, tel qu'il est pratiqué normalement en Italie, ne coûterait pas plus d'1 600 000, donc moins de la moitié.
Enfin, ils craignent que ce dispositif de quarantaine renforcée destiné uniquement aux migrants à peine arrivés ne renforce les préjugés à leur encontre. Sur un total de 2 448 migrants mis en quarantaine au mois de novembre, seuls 197 étaient positifs à la Covid-19.
La Grèce, l'une des principales portes d'entrée des demandeurs d'asile en Europe, bâillonne la parole dans les camps de migrants. Le gouvernement grec durcit le ton à l'égard des ONG qui accueillent les réfugiés. L'an dernier, une première loi a d'abord imposé l'enregistrement des organisations et de leurs membres. Et désormais, un décret impose une clause de confidentialité aux humanitaires. Une évolution qui préoccupe le Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG affilié au Conseil de l'Europe. Joël Brunner est notre correspondant en Grèce.
Natalia Kavkoutsou est avocate depuis plus d'un an pour l'ONG Greek Council for Refugees à Lesbos. Sur cette île voisine de la Turquie, un nouveau camp de centaines de tentes a vu le jour après le double incendie de celui de Moria en septembre dernier. Pour la trentenaire de passage à Athènes, l'évolution de la loi grecque multiplie les procédures administratives, restreint l'accès au camp et perturbe directement le travail des ONG vis-à-vis des demandeurs d'asile sur le terrain.
Une partie de notre travail consiste aussi à nous faire l'écho de ce qui se passe, à rendre compte des réelles conditions de vie à l'intérieur du camp, pas uniquement à proposer notre assistance aux personnes qui vivent là. Nous avons aussi le devoir de dire la vérité, de décrire la situation sur place. Les tentes sous lesquelles les gens vivent, l'absence d'eau courante, l'insécurité qui règne, toutes ces choses-là. Tout ceci est donc extrêmement frustrant. Nous avons l'espoir que les conditions de vie du camp puissent s'améliorer, que la situation devienne plus sûre et plus digne pour tous. Mais au lieu de ceci, notre travail est entravé de toutes les manières possibles.
Ces entraves se matérialisent aussi par une criminalisation des organisations humanitaires, comme en septembre dernier, où la police grecque a lancé des poursuites contre 35 membres d'ONG accusés de faciliter le trafic d'êtres humains entre la Turquie et l'île grecque de Lesbos.
Ce que nous observons concrètement, c'est que les organisations qui faisaient preuve de solidarité, par exemple sur la côte, pour fournir des produits de base lorsque les gens arrivent de la mer, comme des couvertures ou de l'eau, ont maintenant peur d'être accusées d'aider les réfugiés à venir en Grèce. Donc ces organisations qui travaillent pourtant depuis longtemps sur l'île de Lesbos et qui sont connues des autorités ont arrêté de se rendre sur ces lieux. Elles ont cessé de fournir des choses sommaires et nécessaires. Le sentiment que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde redoute que de simples actions de compassion et de solidarité puissent mener à une accusation pénale. En l'occurrence, l'accusation d'encourager l'arrivée des demandeurs d'asile en Grèce, voire celle de participer à un trafic d'êtres humains.
Aujourd'hui volontaire pour l'ONG Emantes, Spiros Koulocheris a près de 20 ans d'expérience avec les ONG humanitaires. Ce cinquantenaire souligne que leur criminalisation, manière de les mettre au pas, est permise par le processus même de la demande d'asile.
Pour que quelqu'un puisse procéder à une demande d'asile dans un pays d'accueil, cette personne doit se trouver sur le territoire de ce pays. Pour y accéder, la majorité des réfugiés, plus de 90%, entrent illégalement sur ce territoire. Et c'est cet acte illégal initial qui engendre l'incompréhension et la criminalisation. En ce qui concerne la Grèce, les ONG peuvent avoir de gros ennuis si elles répondent au message de quelqu'un qui se trouve encore dans un autre pays et qui leur demande de l'aide pour être mis en contact avec les autorités une fois entrées en Grèce, afin de ne pas être refoulé. Car selon la loi grecque, il est interdit d'aider quelqu'un à entrer illégalement, que cette personne soit ou non un demandeur d'asile.
Répondre à un message en provenance de Turquie ou de ses eaux territoriales peut donc conduire des ONG à se retrouver accusées d'aider les passeurs. Un type d'accusation qui avait déjà émergé à partir de 2016. Au pouvoir depuis l'été 2019, le gouvernement conservateur grec est souvent pointé du doigt pour le durcissement de sa politique envers les demandeurs d'asile. Spiros Koulocheris, lui, rappelle notamment que l'accord UE-Turquie avait été conclu sous le précédent gouvernement.
Pour moi, la principale différence entre les deux derniers gouvernements grecs, celui de gauche et celui-ci, ce sont les discours qu'ils tiennent. L'ancien gouvernement de Syriza avait un discours progressiste et favorable aux droits de l'homme, alors que l'actuel gouvernement conservateur adopte plutôt, disons, un discours de rejet. Avec ce gouvernement, il y a bien une chose nouvelle, c'est que notre ministre des Migrations et de l'Asile a décidé que la supervision des demandeurs d'asile revenait uniquement à l'État grec. Mais au bout du compte, la politique, si tant est que l'on puisse parler de politique, est sans doute la même, quel que soit le gouvernement, et elle consiste à ajouter toujours plus d'obstacles à de nouvelles entrées.
Des obstacles qui se dressent aussi devant les ONG humanitaires en Grèce, et ce, in fine, pour limiter l'arrivée de ces demandeurs d'asile et les rendre toujours plus invisibles. Alors qu'en parallèle, Athènes et Frontex, l'agence européenne de garde-côtes, sont-elles régulièrement accusées de participer au refoulement de demandeurs d'asile en mer, un acte illégal sur le papier.
La Grèce, toujours associée au tristement célèbre camp de Moria, le plus important camp de réfugiés d'Europe, réduit en cendres en septembre dernier. Avant la destruction de Moria, Mortaza Bebboudi, un journaliste afghan réfugié en France, et le Père Joyeux, alors responsable du service jésuite des réfugiés à Athènes, ont décidé de vivre le confinement avec les grands oubliés de la pandémie de coronavirus. De ces 6 mois passés à Moria, il reste un documentaire, Moria, par-delà l'enfer, co-réalisé par Laurence Monroe, la réalisatrice qui revient pour Accent d'Europe sur la situation de dénuement absolu de ces réfugiés.
Le manque de tout, le manque d'abord d'eau, le manque de nourriture, les gens ont faim, le manque d'hygiène, le manque total d'information, tout ça pendant la pandémie, et le manque total d'accompagnement humain. L'Europe verse de l'argent pour aider la Grèce. Mais ce n'est pas d'argent tellement dont on manque, c'est d'accompagnement humain. C'est là, il y a une charge humaine considérable.
Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous ne dormons pas, nous sommes devenus des folles. On est fatigués.
On dénonce l'existence de violence dans ce camp, mais parce que la violence, elle est exercée sur ce camp. Ce sont des situations de violence institutionnelle graves. Les Grecs n'en peuvent plus de devoir assumer seuls cette charge humaine. Et c'est vrai qu'au fil des années, la population civile qui au départ a été très très accueillante et finit par redouter totalement cette accumulation grandissante de population en grande, grande souffrance.
Je fais l'appel à la communauté internationale, à l'Union européenne, à la gouvernement grec de prendre solution pour nous les immigrants de Moria. On a risqué nos vies pour traverser la mer Égée, pour venir ici, non pour vous nous abandonner.
La population est très jeune. 45% d'enfants, beaucoup de jeunes. Parmi les mineurs, il y a eu des cas, il y a régulièrement des cas de suicide, d'automutilation, c'est quelque chose de terrible.
À cause du Covid, on les a totalement bloqués sur le camp de Moria. Ils se sentent non seulement abandonnés, mais emprisonnés ce coup-ci. D'ailleurs, ce sont des camps de, non pas de rétention, mais de détention. On ne les retient pas, on les détient. Et en plus, on leur parle beaucoup de déportation, de retour au pays, d'attente pour être interviewé parfois dans un an ou dans deux ans. Comment tenir dans ces situations-là avec une certaine dignité et une bonne image de soi? C'est impossible.
Ce qui m'a intéressé, moi, c'est d'aller à la rencontre, de suivre un peu la démarche de ce père jésuite qui essaye d'encourager les ressources des personnes. Et une des évidences, c'est toute cette jeunesse abandonnée. Et donc, un de nos personnages principaux est une jeune fille de 14 ans qui décide de créer une école, qui rêve d'une école pour tous les petits. Et elle finit par créer cette école avec justement l'appui de quelques bonnes volontés, pas beaucoup de moyens. Et tout ça, ce sont des initiatives des réfugiés eux-mêmes. Nous, ce que nous avons voulu montrer dans ce film, c'est toute la richesse de ces personnes qui frappent à la porte de l'Europe et qui demandent simplement d'être entendues dans leurs récits, dans leur désir d'une vie meilleure, dans leur désir de fuir la violence précisément.
Bye bye Moria, alhamdoulilah, khlasta minna ou min balaa ou min nishha ou min qarafa.
Moria part de là l'enfer, un documentaire de Laurence Monroe et Mortaza Bebboudi. Le camp de Lipa en Bosnie-Herzégovine a été ravagé par les flammes le 23 décembre dernier. Depuis, près d'un millier de migrants survivent dans les décombres, dans le froid, sans électricité, ni eau courante, ni chauffage. Une tentative d'évacuation le 30 décembre a été bloquée par les autorités locales. Cet incendie a rappelé à l'Europe le sort de ces réfugiés nassés aux portes de l'UE, victimes du jeu de domino des expulsions qui va d'Autriche et d'Italie jusqu'en Bosnie-Herzégovine via la Slovénie et la Croatie. C'est un reportage de Simon Rico.
Sur cette vidéo enregistrée au printemps dernier par des réfugiés, on voit un jeune homme en larmes, incapable de marcher après avoir été frappé par des policiers croates en arrière-plan. Ce témoignage, recueilli par l'ONG No Name Kitchen, est l'un des nombreux exemples de renvois violents qu'opèrent les forces de l'ordre déployées en masse par Zagreb à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Ces derniers mois, ces brutalités se sont généralisées au point que les femmes et les mineurs ne sont même plus épargnés, comme l'explique Anna Chucha du Centre pour les études de la paix, le CMS, une association qui vient en aide juridiquement aux exilés.
Cette année, dans notre rapport annuel sur les pushbacks, nous avons recensé toutes les violences commises contre les mineurs et les mineurs non accompagnés. On parle de coups, de pistolets pointés sur la tempe pour faire peur, d'affaires confisquées. On a aussi le cas d'un jeune mineur qui a failli mourir après avoir été contraint par un policier de plonger nu dans une mare d'eau préalablement électrifiée. Il y a aussi les témoignages de mineurs de 15 ou même 12 ans qui racontent qu'après avoir dit qu'ils étaient mineurs, les policiers leur ont lancé « Ok, vous êtes mineur, donc on va vous frapper encore plus fort ».
Alors que les associations comme le CMS d'Anna Chucha documentent depuis plusieurs années déjà les violences commises contre les réfugiés par la police croate, il a fallu attendre ces dernières semaines pour que la Commission européenne finisse par s'émouvoir. Mais ces ONG accusent l'UE d'être en réalité complices de ces violations manifestes des droits humains. Caroline Rougle est membre d'Arius Sirius, une organisation de volontaires déployée tout le long de la route migratoire des Balkans.
In the process of the adhesion to the Schengen area,
la Croatie cherche à être intégrée à l'espace Schengen. Et c'est pour cela qu'elle joue aussi bien les chiens de garde des frontières extérieures de l'UE. Mais pour mener de telles actions, il est certain qu'elle a le soutien de ses partenaires européens. Nous estimons en effet que l'Union européenne a suffisamment de pouvoir pour contraindre n'importe quel État membre de cesser ses mauvaises pratiques. S'il y avait une réelle volonté politique, les violences commises au nom de l'UE depuis si longtemps auraient déjà cessé.
Mais pour le moment, rien n'a bougé, alors que la neige recouvre déjà tout le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine.
Driving in the 21st century and we're using electricity.
Les ventes de véhicules électriques ont été multipliées par deux l'an dernier en Europe, en Norvège. Les ventes de ces véhicules ont dépassé celles des voitures thermiques. On en parle avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
L'année 2020, c'est vraiment l'année du démarrage de la voiture électrique en Europe.
On peut le dire Juliette, sur 8 millions de véhicules vendus en Europe l'an dernier, une baisse de 35% par rapport à 2019, plus d'un million sont des véhicules électriques rechargeables, qu'ils fonctionnent uniquement sur batterie ou qu'ils soient à propulsion hybride. Cela représente 13% du marché, soit un doublement par rapport à 2019. Et la tendance ne fait que s'accélérer, puisqu'en moyenne, 75 000 voitures ont été vendues chaque mois entre janvier et août, puis ce chiffre mensuel est passé à 150 000 durant les trois mois de septembre à novembre.
Alors, est-ce qu'il y a des pays qui sortent du lot en la matière ?
En fait, la tendance est assez générale. Dans les grands pays, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, les ventes de véhicules électriques ont été multipliées par 2,5. Mais tout le monde ne part pas du même niveau. En nombre, l'Allemagne reste le leader incontesté du marché avec 205 000 voitures électriques vendues au cours des 9 premiers mois de 2020. Suivent assez loin, aux environs de 110 000 chacun, la France puis le Royaume-Uni. Mais l'Italie est bien plus en retard avec 30 000 véhicules, sans parler de l'Espagne qui dépasse de peu les 20 000. Cela dit, si l'on tient compte de la population, les vrais champions de l'électrique restent la Norvège et la Suède, dont les 15 millions d'habitants au total disposent de beaucoup plus de voitures électriques que les 67 millions de Français. En 2020, la Norvège est le premier pays où les ventes de ces véhicules ont dépassé celles des voitures thermiques.
Daniel, est-ce que ça veut dire que la France est plutôt à la traîne ?
On pouvait le dire il y a 5 ans, mais notre pays a beaucoup rattrapé son retard. D'abord, à la différence de l'Allemagne ou de la Suède, la France vend plus de voitures purement électriques que d'hybrides. Il faut dire que le leader européen du tout électrique est la Renault Zoé. Et puis, les pouvoirs publics français, État et région, se montrent parmi les plus généreux en matière d'aide à l'achat d'une voiture propre, jusqu'à 16 000 euros en Île-de-France.
Le grand problème, c'était le manque d'autonomie. Est-ce que cet écueil a été résolu ?
L'autonomie est fonction du type de circulation, du climat, du vent. Sur les modèles de base, l'autonomie minimale est encore réduite. 170 km pour une Renault Zoé, 225 pour une Peugeot 208, mais quand même 330 km pour une Volkswagen ID.3. Et puis cette question est à relier à l'équipement des territoires en bornes de recharge. Plus de 50 000 aux Pays-Bas, 40 000 en Allemagne, 30 000 en France et seulement 9 000 en Italie. Et sauf en Scandinavie, seulement 10 à 20% de ces bornes sont à charge rapide. Bref, encore un peu juste pour traverser l'Europe de façon sereine.
Au total, cette poussée de l'électrique, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement ?
Oui, s'il s'agit de la pureté de l'air des pays développés. Mais la trace écologique du véhicule électrique n'est pas moins sévère que celle du véhicule thermique. Car il faut tenir compte des dégâts écologiques et sociaux provoqués dans les pays en développement par l'extraction des métaux précieux utilisés pour les batteries.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.